Nous prions. Éternel notre Dieu, que ton esprit ouvre en nous un espace pour ta parole de vie. Que ton esprit nous rende attentifs, disponibles aux mots des Écritures et aux cris du monde, aux échos de l'histoire et aux appels du présent. Que ta parole, qui nous porte ce qui est bon et beau, prenne place et corps en nous. Amen. Nous lirons ce matin un des trois textes proposés à la lecture et à la méditation des Églises en ce dimanche de Réformation. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parler d'aimer, en des jours de colère, de haine, de sang, en des jours de peur, de défaillance, d'abattement, en des jours d'horreur, de cris, d'ensevelissement. Parler d'aimer, mais ce n'est pas pour se changer les idées, ni pour se mettre un peu de baume au cœur, ni pour éviter d'écouter et de voir la réalité ici et au loin. Parler de Dieu, en des jours où certains prétendent détenir la vérité à son sujet, où d'autres tuent en son nom, où l'instrumentalisation de la foi occupe tant d'idéologies économiques, nationalistes, religieuses. Parler de Dieu, mais pas pour le justifier, ni pour défendre son honneur, ni pour l'évacuer de nos drames humains. Parler du prochain, en des jours où des hommes, des femmes et des enfants s'enfuient, s'enfouissent, chavirent, disparaissent, en des jours de tri, de discrimination, d'exclusion, d'affrontement. Parler du prochain, mais ce n'est pas pour se dédouaner, ni pour se rassurer, ni pour se préserver. Parler d'aimer, de Dieu, du prochain, pour dire et dire encore à soi-même et à d'autres qu'il y a du possible malgré les fermetures, qu'il y a du sens malgré le chaos, que tout n'est jamais dit sur autrui ni sur soi-même, et que soit tenu, soutenu, maintenu, soi-même et d'autres. En parler ce matin, ce sera en se penchant sur ces quelques versets tellement connus, tellement cités, tellement repris, sommaire de la loi, le plus grand commandement. Les titres de ce passage dans les éditions des Bibles concentrent l'intensité de la réponse de Jésus aux spécialistes de la loi lors de ce bref échange. Un échange pour une question qui est un piège. Et il est vrai que la mort rôde, qu'elle s'approche avec la violence, les injures, les humiliations et la croix. C'est la troisième fois que dans cette journée, Matthieu met en scène un groupe de pharisiens ou de sadducéens cherchant à prendre Jésus en défaut. Une première fois, c'est avec des pharisiens au sujet de l'impôt dû à César. Puis les sadducéens posant une question sur la résurrection. Et enfin, celle du spécialiste de la loi. Quel est le grand commandement de la loi ? Et cette question, Matthieu le dit clairement, nous ne sommes pas surpris, cette question est une mise à l'épreuve de Jésus. Ou pour le dire autrement, parce que le terme grec de mise à l'épreuve le permet, cette question est une tentation. Comme lorsque le Satan tente Jésus au désert après son baptême. Mais en quoi cette question est-elle un piège, une tentation, une mise à l'épreuve ? Après tout, parmi les 613 commandements de la Torah, auxquels il faut ajouter tous les commentaires oraux qui ne sont pas encore posés par écrit à l'époque de Jésus, pourquoi n'y en aurait-il pas un plus important que les 612 autres ? D'ailleurs, il y a le Décalogue, ce qu'on appelait auparavant les 10 commandements dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome. 10 paroles pour dire la loi pour la liberté du peuple au sortir de l'esclavage. Les prophètes eux-mêmes ont écrit des résumés de la loi. Le prophète Ésaïe l'a fait en 6 paroles au chapitre 33. Le prophète Michée en 3 paroles au chapitre 6. Le prophète Amos en une seule parole au chapitre 5. Et l'apôtre Paul lui-même, nous l'avons entendu tout à l'heure, écrit aux Galates que la loi et les prophètes sont contenus en une seule parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et après tout, puisque nous sommes le dimanche de la Réformation, Martin Luther n'a-t-il pas entendu l'Évangile comme bonne nouvelle grâce à une parole du livre du prophète Habacuc, « Le juste vivra par la foi ». Une parole qui demeure extrêmement précieuse pour les protestants puisqu'elle ouvre à cette conviction de la justification par la grâce seule. En quoi la question du spécialiste de la loi est-elle une tentation ? D'autant plus que Jésus n'hésite pas une seconde à répondre, et qu'il répond en citant effectivement deux commandements de la loi. Un du livre du Deutéronome au chapitre 6, même s'il le modifie un petit peu en remplaçant « la force de toute ta force par de toute ton intelligence ». Et puis un autre commandement du livre du Lévitique au chapitre 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quelle est la tentation qui ferait que donner une réponse à cette question ferait basculer celui qui répond hors de sa relation à Dieu? Parce que c'est cela une tentation, comme celle que Satan agite devant Jésus au désert. Une tentation, si on ne l'évite pas, est ce qui sépare l'être humain de Dieu. Mais pour être efficace, la tentation avance masquée. Sinon, ce serait trop facile. C'est pourquoi le piège de la question posée à Jésus ne réside pas dans la question elle-même, mais dans l'état d'esprit de celui qui la pose. Elle est mise à l'épreuve de son point de vue à lui, mais pas du tout du point de vue de Jésus, qui répond sans attendre et sans hésiter. celui qu'on appelle dans les Écritures le Satan, l'adversaire, qui est ce qui s'oppose à l'humain espéré par Dieu. Ou, on peut le désigner d'une autre manière, le diable, le diviseur, qui coupe la relation entre l'humain et le Dieu source de vie. Eh bien, ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'esprit selon lequel les mots sont prononcés. Si cette question est une mise à l'épreuve, une tentation, c'est que dans l'esprit du spécialiste de la loi, il ne peut pas y avoir de réponse. Il ne peut pas y avoir de commandement plus grand que les autres. Ils sont tous absolument de la même importance et tous doivent être respectés de la même manière, car c'est à cela que se tient le salut de l'humain. C'est cette question est mise à l'épreuve et tentation parce que, pour le spécialiste de la loi, la réponse serait aucun. Cependant, c'est bien dans cette manière de comprendre les commandements que se glisse aussi la tentation qui transforme l'être humain en esclave de la lettre des commandements et Dieu en gestionnaire du compte des manquements et des transgressions. Il est impossible de se tenir en confiance devant un Dieu lorsque le rapport à la loi que donne ce Dieu est limité à une seule sorte de question: est-il permis de ou pas? Ce littéralisme scrupuleux qui fait penser que l'humain pourrait se mettre en règle avec Dieu par une stricte obéissance, Jésus ne cesse d'en dénoncer les méfaits, ce qu'il produit, des jugements d'exclusion, de déconsidération portés sur autrui, la domination de l'autre, ainsi que le dessèchement de l'âme. Et c'est face à cet état d'esprit qui induit la tentation et la mise à l'épreuve des autres humains que Jésus répond paisiblement que oui, il y a un commandement plus grand que les autres et un second qui lui est semblable. Il y a un commandement auquel sont suspendus tous les autres. Et si ce commandement est ignoré dans sa double formulation, il est vain, complètement vain, de respecter les autres. Il y a un commandement qui donne le sens de tous les autres. Et si ce commandement est négligé, toute religiosité, toute piété, tout rite sont vains, complètement vains. Face à une Église exigeant la soumission aux règles qu'elle édictait en les parant de la volonté de Dieu, Martin Luther, au XVIe siècle, a repris un tel geste, en posant la justification par la grâce seule comme l'expression de la volonté de Dieu, et tout le reste est suspendu à cela. Toute croyance, toute conviction, toute doctrine est référée à l'Évangile ainsi compris. Évangile libérateur de la peur, des comptes et du devoir se justifier soi-même. Le plus grand commandement, le grand commandement que Jésus pose face aux spécialistes de la loi, avec le second qui lui est semblable, est déjà, par excellence, une expression de l'Évangile libérateur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce double commandement soutient toute la loi, les 613 prescriptions et la masse de leurs commentaires, et les 10 paroles du Décalogue, et les 6 d'Ésaïe, et les 3 de Michée, et celles d'Amos, c'est-à-dire qu'ils soutiennent toute l'existence de celles et ceux qui se confient au Dieu de Jésus-Christ, parce que la loi est un chemin de vie et pour la vie, bien plus qu'un impératif. La loi est bien plus une promesse qu'une injonction. tu aimeras. Tu ne seras pas coupé, disjoint, dissocié, désuni, détaché de Dieu, ni de ton prochain. Tu seras libéré de ce qui te sépare de Dieu et de ton prochain. Tu seras libéré de la peur de Dieu et de ce qui te fait considérer le prochain comme un ennemi, un concurrent, un danger. Tu seras avec Dieu en relation de reconnaissance et de confiance. Tu l'aimeras. Tu seras avec le prochain en relation de justice, de miséricorde et d'équité. Tu l'aimeras. La reconnaissance et la confiance envers Dieu engagent l'humain en un être renouvelé dans l'amour, l'amour qui est justice, l'amour qui est miséricorde, l'amour qui est équité, égalité de considération d'autrui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, toute la volonté, car le cœur est le siège de la volonté. Et cela nous avise lorsque nous glissons vers une sentimentalité facile. Toute l'âme qui est le principe vital, et cela nous avise lorsque nous nous crispons sur des principes, des jugements et des catégories. Toute l'intelligence qui est conscience et responsabilité de la quête de sens, et cela nous avise lorsque nous cédons sans réflexion, sans esprit critique, à des réponses déjà là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire en le considérant comme ton égal, ni plus ni moins, et quel qu'il soit ce prochain. Pas seulement un enfant, un blessé, un étranger, mais aussi un contradicteur, un bourreau, un ennemi. Parce qu'aimer n'est pas qu'un sentiment, ou si peu un sentiment. Surtout dans la culture hébraïque qui est celle de Jésus de Nazareth, c'est toujours un amour pratique, incarné dans un être au monde qui n'a rien de mièvre ni de mou et qui ne va pas de soi. Ce en quoi l'amour peut effectivement être le contenu d'un commandement, c'est-à-dire d'une interpellation qui réveille et réoriente dans la conviction qu'il y a là une vérité pour sa propre vie et pour le monde. Et ce n'est pas un cœur qui symbolise l'amour, mais plutôt le signe égal, une égalité qui crée une communauté d'humanité. Jésus de Nazareth révèle que l'amour fonde la structure du réel du monde. Mais certes, la réalité en est bien éloignée, parce que la perception du réel est mise à l'épreuve, tentée, tordue par les principes de domination qui gouvernent tant d'institutions et de personnes. La réforme a été un de ces mouvements, un de ces soulèvements qui rapprochent la réalité du réel d'amour, en protestant contre un système religieux qui avait enfoui l'Évangile sous l'exercice d'un pouvoir et l'accumulation de conditions. Mais n'oublions pas non plus que très tôt, la réforme a conduit à des mises en accusation, à des condamnations et à des exécutions. Le jeune Félix Manz, condamné à être noyé en 1527 dans la Zurich de Zwingli parce qu'il refusait le baptême des enfants. Michel Servet, condamné au bûcher dans la Genève de Calvin en raison de son antitrinitarisme. Personne n'est à l'abri de la tentation. Certainement, ce pourquoi nous pouvons entendre, et encore en ces jours-ci, le plus grand commandement, le premier, et celui qui lui est semblable, comme un appel à la conversion intérieure, autant qu'à l'engagement de l'être entier. Nous pouvons l'entendre comme la promesse d'une fidélité qui ne force personne. Nous pouvons l'entendre comme l'ouverture d'un chemin, inlassablement chemin, où que l'on soit. Nous pouvons laisser résonner ces mots en nous, selon l'Esprit du Christ, dans notre âme, dans notre cœur, notre volonté, dans notre intelligence. Et cela nous aidera. Cela nous aidera à aider, nous aidera à vivre. Amen.